Africa. Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et avant de débattre de la crise politique en Somalie, retrouvons à Bruxelles notre invité décryptage pour parler du Burundi.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Pierre Claver Bonimpa, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes militant burundais des droits de l'homme, fondateur de l'association pour la protection des droits humains et des personnes détenues. Le ministre burundais des Affaires étrangères, Albert Shingiro, est en tournée dans certains pays européens, dont la France, pour plaider pour une levée des sanctions européennes imposées sous le défunt président Pierre Nkurunziza. Le temps du dégel est-il venu, selon vous ?
Pour nous, il n'était pas encore temps de lever ces sanctions parce que les mobiles que l'Union européenne avait considérés pour reprendre ces sanctions ne sont pas encore terminés, notamment les violations des droits de l'homme, notamment les assassinats, les enlèvements, les disparitions forcées et aussi l'impunité parce que la justice burundaise travaille du côté de l'exécutif, c'est-à-dire que la justice n'est pas indépendante. Et nous sommes en train de tout faire pour que l'Union européenne ne prenne pas cette décision de lever ces sanctions.
Parce que pour vous, c'est trop tôt?
Oui, je dirais que c'est trop tôt parce que il faut que l'Union européenne fasse l'évaluation et voir si... Et la situation au Burundi a changé positivement. Rien n'a changé. Oui, d'accord, il y a quelques gestes de bienfait comme la libération des prisonniers. Je dirais que ça, ce n'est pas suffisant pour lever ces sanctions.
Vous venez de parler justement de la libération lundi de 1400 détenus. En présence du président Évariste Ndayishimiye qui a accordé la grâce à ses prisonniers, certains ONG basées au Burundi s'en félicitent et estiment que c'est un pas.
Oui, moi aussi, franchement, je me félicite pour cette mesure du président de la République parce que ça permet de désengorger les prisons qui étaient trop surpeuplées. Imaginez-vous là où la capacité d'accueil était de 4194 prisonniers. Il y avait au 26 mars 2021 plus ou moins 14 000 prisonniers, c'est-à-dire le taux d'occupation de 322%.
D'ailleurs, la ministre de la Justice a reconnu lors de la cérémonie que le Burundi compte environ 12 000 prisonniers pour une capacité d'à peu près 4 000 places.
Oui, bon, mais la ministre n'a pas dit le chiffre exact, c'est passé, moi je le suis de près. Il y avait au 26 mars plus ou moins 13 532 prisonniers. C'est-à-dire que maintenant, et même si on libère les 3 000 prisonniers, et il y a 11 000 prisonniers qui restent si la capacité d'accueil est de 4 000. Vous entendez que les prisons étaient toujours surpeuplées.
Quelle place occupe l'opposition burundaise aujourd'hui?
Bon, je dirais qu'au Burundi, il n'y a pas d'opposition parce que si tu es un opposant, tu es poursuivi. Même si tu es un défenseur des droits de l'homme, tu es poursuivi. Et l'exemple n'est pas loin. Moi, je ne suis pas au pays. J'ai failli d'être assassiné. Beaucoup de journalistes de radio ont été incendiés, détruits. C'est-à-dire que l'opposant au Burundi maintenant, et je dirais qu'il n'y en a pas, mais parce que le parti CNDD-FDD ne tolère pas les opposants de taille.
C'est-à-dire le parti au pouvoir du président Ndayishimiye.
Oui, oui, oui.
Quels sont, selon vous, les préalables pour envisager la levée des sanctions?
Et il y a quelques autorités qui ont commis des violations graves et qui ont poussé même l'Union européenne à prendre ces sanctions. Et alors, ces personnalités, ils sont au gouvernement, ils sont à côté du président de la République Et à ce moment, je ne sais pas comment l'Union européenne va dire qu'il y avait des sanctions, alors que ces autorités qui ont commis ces violations sont toujours là.
Ces personnalités doivent être arrêtées et jugées.
Normalement, quand tu as commis une infraction, même le président de la République dit qu'il faut laisser la justice travailler. Alors, c'est lui qui a commis des violations graves. Et bon, doit être puni sans considérer son rang politique ou bien son autorité. Moi, je suis victime, j'ai besoin de la justice. Il y a beaucoup de Burundais qui sont victimes, ils ont besoin de la justice. C'est ce que nous demandons. Et aussi, il faut établir l'accord d'Arusha pour que la population burundaise puisse cohabiter paisiblement.
Il n'y a pas eu d'amélioration au niveau des droits de l'homme depuis l'arrivée au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye?
Franchement, oui, quelques gestes, il y en a, mais ce n'est pas au point de dire que la situation des droits de l'homme au Burundi s'est beaucoup améliorée. Nous aimons notre pays, nous voulons la paix et la justice, rien que ça.
Pierre Claver Bonimpa, merci beaucoup.
À votre plaisir.
Militant burundais des droits de l'homme, fondateur de l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
Bienvenue si vous nous rejoignez pour les débats dans votre émission Le Grand Rendez-vous. Et nous parlons ce soir de la crise politique en Somalie. Depuis deux semaines, une crise plutôt forte oppose le président Farmadjo et ses adversaires après le prolongement de 2 ans de son mandat. Et nous en parlons avec quatre invités, dont deux à Djibouti. D'abord, Aden Omar Abdilahi. Bonsoir, monsieur Abdilahi. Me fait-on s'il n'est pas encore là? Et nous avons également à Djibouti Abdirachid Mohamed Ismaël. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Ismaël? Bonsoir, monsieur Ismaël. Maître...
Oui, très bien, je vous reçois très bien.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Djibouti, vice-président de IRICA, c'est l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique. Et Mario Giraud, ancien ministre délégué des Affaires étrangères et de la coopération, il est également professeur des relations internationales à l'Université de Perugia, c'est à Rome, en Italie. Monsieur Giraud, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Voilà, merci. Je voudrais m'assurer avec vous que je prononce bien votre nom. C'est bien monsieur Giraud?
Oui, oui.
Merci. Et avec nous en studio, Philippe Bonne. Monsieur Bonne, bonsoir.
Bonsoir.
C'est un grand plaisir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas reçu des invités en studio, donc j'en suis très ravie.
C'est plus agréable de parler à un visage qu'à un iPhone.
Ça, c'est certain. Vous êtes ancien directeur général des relations internationales secteur géographique Afrique et grand reporter de reportages surtout de guerre sur les zones Mozambique, Rwanda et Angola.
Oui, alors ça, c'était il y a fort longtemps, quand j'étais beaucoup plus jeune. J'ai commencé ma carrière, en effet, dans ce secteur d'activité.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et nous espérons que dans un instant, on va pouvoir retrouver donc Aden Omar Abdilahi, qui est somalien et directeur de l'Institut d'études politiques et stratégiques de Djibouti. Il sera en ligne de Djibouti. Alors, je voudrais commencer avec vous, monsieur Mohamed Ismaël. On va dire peut-être commencer par le début. Cela fait quelques mois que les élections auraient dû être organisées en Somalie. Elles n'ont pas pu avoir lieu. Comment en est-on finalement arrivé à l'extension du mandat du président Farmadjo? Allô, monsieur Ismaël?
Oui, bonsoir à tous d'abord.
Oui, allez-y.
Oui, je vous entends.
Oui, je demandais comment en est-on arrivé à cette prolongation de mandat?
Tout à fait, je vous ai bien entendu. Donc, effectivement, pratiquement toute l'année 2020, l'année dernière, il y a eu de longues discussions sur l'organisation de ces élections. Et vers la fin de l'année dernière, il y a eu c'était au mois de mars, dernier round des négociations n'ont rien donné. Et là, le président actuel n'avait quasiment plus d'options ouvertes. Et donc, c'est là qu'il a décidé de de demander une prolongation de son mandat de 2 ans, ce qui était inconcevable, ce qui n'était pas, ce qui était attendu un petit peu, mais qui était redouté par beaucoup. Et finalement, c'est ça qui a mis qui a été la goutte qui a fait déborder le vase et qui a mis le feu aux poudres.
Donc, vous dites qu'il y avait une autre option possible que celle-là, c'est-à-dire celle d'étendre son mandat à 2 ans ? De 2 ans son mandat ?
Oui, bien sûr, parce que, tout à fait, parce qu'en fait, il y avait deux options, enfin deux approches de ces élections. Une approche qui a été finalement actée par l'ensemble des acteurs, aussi bien nationaux que régionaux et internationaux, qui assistaient, qui faisaient partie des négociations, enfin des facilitateurs de ces négociations. Et donc cette option indiquait ou proposait à ce qu'on passe par des élections indirectes, que le président soit finalement élu comme la dernière fois par le Parlement. Et le président, alors que le président actuel avait pendant pratiquement toute l'année dernière défendu l'option d'une vote, une personne, une vote. Et quand cette option n'a pas pu passer, il a demandé à ce que son mandat soit prolongé de 2 ans. Et c'est ça qui a, bien sûr,
le Parlement l'a adopté et finalement, lui-même, il a promulgué. Je vais passer la parole à monsieur Giraud à présent. Il y a certains experts aussi qui affirment que cette crise trouve ses racines dans le désaccord entre Farmajo et les dirigeants du Puntland et du Jubaland. Ce sont deux des 5 États semi-autonomes de la Somalie. Quel est le problème exactement? Qu'est-ce qui les oppose?
Le problème, finalement, est un problème de choix entre une fédération où Mogadiscio compte un peu plus et une confédération où les régions sont un peu plus libres. Donc une confédération, c'est plus flexible. Toutes ces années passées à se développer de façon séparée ont en quelque sorte donné l'avantage au modèle Somaliland. Et c'est ça que le Puntland et le Jubaland visent. Et d'ailleurs, leur relation avec le Kenya, avec les Émirats, etc., nous prouve qu'il y a une vision plus confédérale, donc beaucoup plus souple, et une vision plus centraliste que le président Farmajo en quelque sorte a incarné en ces derniers mois, surtout ces derniers mois. Et le vote, une personne, un vote, disons le vote à suffrage universel, présuppose qu'on retourne à une Somalie unitaire.
Mais et c'est ce que souhaite le président Farmajo.
Oui, et pas seulement. Et pas seulement. Bien sûr, il avait disloqué l'armée nationale dans les différentes capitales régionales. Cela a été considéré les derniers mois comme une espèce de menace. Maintenant, les choses se sont crispées fondamentalement parce que la division clanique de la Somalie y est pour quelque chose. Donc, je pense que c'est très compliqué de retourner à un système centralisé, même si le système centraliste a ses amis, a ses appuis.
Vous nous direz peut-être tout à l'heure qui sont les alliés des uns et des autres. Monsieur Bond, quelle est votre lecture de cette crise, finalement, qui est partie du terrain politique vers la crise armée?
D'abord, je partage assez largement ce qui vient d'être dit par les deux éminents interlocuteurs qui me précèdent. Je dois préciser, pour que les choses soient tout à fait transparentes, que j'interviens au titre de conseiller d'un des candidats à l'élection présidentielle, hein, de M. Abchir Aden Ferro, qui est le président du Parti pour l'Alliance du Futur. Et donc, j'ai évidemment une vision peut-être plus politique, stricto sensu, de la situation. Je ne sais pas quand mes confrères qui viennent d'intervenir étaient en Somalie sur le terrain récemment, mais je viens de rentrer de Mogadiscio et d'un périple dans le coin. Une fois de plus, les analyses qui ont été faites, je les partage. Il y a simplement une chose. Nous considérons que si on veut reconstruire une Somalie, parce que c'est bien cela dont il s'agit, ça fait 30 ans que ce pays est grosso modo en guerre, soyons clairs. Tous les différents régimes qui se sont succédés, malheureusement, n'ont pas réussi à établir la paix dans ce pays. Et nous avons la faiblesse de penser, et Abshir Adenferro a la faiblesse de penser, que le one man, one vote, qui n'est pas exclusif d'un État fédéral, ça ne nécessite pas un État centralisé, jacobin, si j'ose dire. Il y a tout à fait des modalités qui permettraient d'avoir des autonomies pour chacun des États fédérés dans le cadre d'une élection au suffrage direct. Mais ce suffrage direct, d'abord, il est revenir aux sources de la Constitution. Et il semble que si on veut un jour revoir l'espoir dans ce pays, il faut reconstruire un État de droit. Or, un État de droit, ça passe par le respect des lois fondamentales et le respect de la Constitution. Donc, c'est un peu notre approche. Aujourd'hui...
Excusez-moi, M. Oui. Bonne, ma question était de savoir, vous êtes déjà là dans le mode de scrutin. Nous allons en parler dans la deuxième partie de l'émission dans quelques minutes. Alors, ma question est de savoir, pourquoi est-ce que un combat ou bien des divergences qui sont à la base politique se sont finalement retrouvés à être des affrontements armés avec des divisions, d'une part des milices qui soutiennent le président Farmadio, d'autres milices pour l'opposition. Qu'est-ce qui a expliqué, qu'est-ce qui explique cela ?
Eh bien, je crois l'absence de réel dialogue, ou en tout cas l'incapacité de se mettre d'accord dans le cadre d'un dialogue. Malheureusement, Monsieur Farmadio, l'ex-président Farmadio, parce que oui, il s'est fait reconduire pour 2 ans, mais simplement par la chambre basse, je me permets de le souligner.
À moins que le président du
mes
Sénat
informations
a refusé,
aient évolué et soient mauvaises, la chambre haute n'a pas donné sa bénédiction. Nous sommes déjà dans un coup d'État, formellement. Monsieur Farmadio n'est plus président. Je parle sous le contrôle de mes collègues.
Donc pour vous, cela justifie l'usage
mais je crois que c'est le speaker qui, logiquement,
devrait prendre le
leadership, selon la Constitution, c'est le speaker de la Chambre. Et donc, oui, vous avez bien fait de parler de milices. Nous savons très bien que des troupes érythréennes sont venues soutenir Farmadio. Je ne mentionne même pas des conseillers militaires d'autres pays comme la Turquie, qui sont très présents. À un moment donné, le dialogue entre les différentes parties n'a pas pu se faire et la Somalie a malheureusement une longue tradition de conflits armés intérieurs.
Merci. Nous n'avons pas pu jusqu'à présent retrouver M. Aden Omar Abdillahi. Je retourne à vous, M. Mohamed Ismaël. Quelles ont été finalement les conséquences de cette double crise, de cette crise politique sur l'agenda même, finalement, électoral de la Somalie?
Eh bien, la conséquence directe, c'est le blocage du système. Et puis, bon, maintenant, ce qui est bien, c'est que la tension a baissé depuis maintenant 2 jours. Donc,
avec l'appel aux élections annoncé par le président.
Tout à fait, et son retour à la chambre basse pour demander la suppression du dernier, enfin la suppression du dernier vote. Maintenant la situation se calme, il y a moins de tension, mais ça va reprendre très vite parce que l'accord sur lequel tout le monde souhaite renégocier est lui-même truffé de points de dispute et possible, potentiel. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge parce que c'est pas encore fini. Bon, après, maintenant, tout dépendra de l'attitude que va avoir le président Farmadio, Abdoulaye Mohamed Farmadio. Si son attitude est constructive et qu'il accepte tout. Pardon, est-ce que vous m'entendez ?
Oui, on vous entend, M. Ismaël. Oui, terminez vos propos, s'il vous plaît.
Oui, d'accord, parce que j'entends un son de musique. Donc, tout dépendra de l'attitude du président actuel. S'il change d'état d'esprit et qu'il accepte réellement qu'une négociation franche et véritable puisse se mettre autour de l'accord du 17 septembre.
Je suis navrée de vous interrompre, Monsieur Ismaël. Vous allez pouvoir conclure dans un instant après cette courte pause.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Quelle issue pour la crise politique en Somalie? Nous en parlons ce soir avec Philippe Bonne, ancien directeur général des relations internationales, secteur géographique Afrique, qui est avec nous dans ce studio. Mario Giraud, ancien ministre délégué des Affaires étrangères et de la coopération. Il est également professeur de relations internationales à l'Université Perugia, c'est en Italie. Il est à Rome. Et je vous redonne la parole, Abdi Rachid Mohamed Ismaël, maître de conférence à l'Université de Djibouti et vice-président de l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique. Alors, vous disiez que la suite de cette crise dépendra de l'attitude du président Farmadio. Pourquoi?
Tout à fait. Parce que c'est le même, on va discuter autour du même accord sur lequel on a discuté pendant pratiquement 4 mois, si ce n'est pas plus. Et d'un seul coup, il accepte de pouvoir discuter à partir de cet accord, un accord qu'il a rejeté de façon très forte. Donc, ce sera difficile de savoir quelle attitude il va avoir par rapport à ça, mais je pense que ce sera déterminant. Son attitude sera déterminante pour la suite.
En quelques mots, vraiment, Monsieur Ismaël, que contient cet accord et quels sont les aspects qui constituent le point d'achoppement?
Eh bien, cet accord, comme disait un de nos collègues ici présents qui participe à cet échange, on l'interprète de façon, d'abord, il y a l'accord sur lequel, un point sur lequel tout le monde est d'accord, à savoir l'élection indirecte.
Hein, donc, suffrage direct.
Le Parlement qui voterait le suffrage indirect. Mais comment et à travers quelle procédure les députés qui vont élire les présidents vont être sélectionnés? Qui va avoir la main forte? Ce sont des éléments qui restent encore à discuter. Et également une région, une sous-région qui est devenue quasiment une région qu'on appelle Gedo, qui fait partie en principe de la région de Jubaland et dont est originaire le président actuel. Et les représentants de cette sous-région posent aussi également problème. Qui va décider? Est-ce que leur élection ou leur nomination va être gérée par l'autorité régionale de Jubaland ou directement par la présidence? Donc, il y a des points d'achoppement comme ça qui sont des vrais points d'achoppement et qui ont posé problème et qui restent encore sur la table.
Merci
beaucoup.
Donc,
l'attitude du président Farmadio sera déterminée.
Monsieur Giraud, vous êtes également d'accord avec Monsieur Ismaël que l'issue de cette discussion ou la solution dépendra de l'attitude du président Farmadio? Autrement dit, quelles sont les forces politiques en présence?
Non, mais une chose est claire. Comme l'a dit quelqu'un avant moi, le mandat de Farmadio a expiré, comme d'ailleurs celui de la Chambre. Et nous sommes dans une situation difficile et Farmadio a essayé un coup de force. Le problème est éminemment politique, parce que de son côté, ses soutiens disent... les régions sont en train de faire de l'obstructionnisme, prennent du temps. On a déjà passé des années et dernièrement des mois, comme l'a dit celui qui est intervenu juste avant moi. Mohamed Ismaël. Et c'est absolument une posture, disons, obstructionniste contre les négociations, contre la solution des négociations. Donc, Farmadio ne fait pas, il a décidé politiquement, mais il faut voir s'il a la force, de ne pas faire comme ses prédécesseurs à Villa Somalia, donc laisser les choses aller encore bonnement comme elles sont allées jusqu'à maintenant, et il essaye un coup de force, effectivement, contre les régions. Alors, qui le soutient? Bon, il a des soutiens partout un peu, dans le pays sûrement, parce que les Somaliens en partie sont aussi fatigués de ça, de cette division, et il fait, c'est un peu un gageur, disons. Il mise sur le soutien de quelques pays étrangers, en particulier aux États-Unis.
Où la Grande-Bretagne aussi?
Non, la Grande-Bretagne est plutôt de l'autre côté, parce que dans ce cas, la Grande-Bretagne soutient l'autonomie et même l'indépendance, qui n'existe pas pour le moment, n'est pas reconnue, du Somaliland. Et donc, en quelque sorte, elle est bloquée par ça. Mais
en ce qui concerne le soutien de Washington, on voit que...
Thomas a vécu aux États-Unis.
Oui.
Thomas a vécu longtemps aux États-Unis. Donc, il espère. C'est pas dit qu'il va... parce que la première réaction américaine était négative. La première réaction américaine ont été négatives. Il espère, il a espéré au moins. Maintenant, je pense qu'il est en train de faire rebrousser chemin. Et on va voir s'il a encore un espace de manœuvre politique. Sinon, il s'en ira. Il espère ou il espérait essayer un coup de force avec l'appui de quelqu'un, parce que il y a une international fatigue. Il y a, comment dire, la communauté internationale est fatiguée de ces éternelles
querelles politiques
somaliens, oui. Où on prend toujours du temps et encore du temps et encore du temps et encore du temps.
Merci.
Sans que la situation ne change.
Merci beaucoup. Monsieur Bonne, pourquoi réussiront-ils, puisque le président Famadjo a dit maintenant qu'il faut que le Parlement se retrouve pour tenter de trouver une solution pour organiser des élections, pourquoi la classe politique parviendra-t-elle à s'entendre maintenant alors qu'elle a discuté pendant près de 4 mois sans parvenir à un accord?
D'abord, je tiens à souligner que je suis vraiment très, très honoré d'être autour de ce débat avec M. Mohamed Ismail et M. Giraud, parce que c'est... Ce sont deux personnes qui, visiblement, connaissent très, très bien le dossier. Et c'est toujours passionnant d'écouter des personnes de cette qualité. Une fois encore, moi, je me resitue sur le plan politique. Je ne me permettrai pas de prétendre à une objectivité absolue, puisque je représente Abshir Aden Ferro, l'un des principaux candidats à cette élection, qui est le seul homme neuf, si j'ose dire, et qui propose un projet d'avenir. Je ne pense pas que les partis se mettront d'accord. Malheureusement, parce que ça ne fait pas quelques mois, ça fait de nombreuses années que nous sommes, comme le soulignait l'interlocuteur M. Giraud précédemment, que nous sommes dans cette situation. La communauté internationale est fatiguée, les Somaliens sont fatigués. Je reconnais tout à fait ce qui était indiqué par M. Giraud, que oui, Farmadjo, d'une certaine façon, peut se prévaloir d'un certain soutien
américain
à l'intérieur du pays, parce que les Somaliens sont fatigués. Les Américains, je pense que là, la situation est plus modérée. Notre candidat, M. Abshir Aden Ferro, a lui aussi des contacts très étroits avec les autorités de nombreux pays qui ont été cités pendant cet entretien. Et il appelle d'ailleurs à quelque chose qui n'est pas encore tout à fait connu, mais il appelle et est en train d'essayer d'organiser une conférence à l'extérieur du pays pour régler les problèmes. Et parce que, comme il le dit très justement, ce qui unit tous les candidats à l'élection présidentielle en Somalie, c'est en théorie quand même leur amour de leur pays, avant ce qui les divise. Et donc, essayer de...
Donc
de...
finalement, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les discussions politiques n'auront plus lieu...
À l'intérieur.
En Somalie?
Elles ne peuvent pas déboucher en Somalie, puisqu'elles sont sous des pressions militaires. On ne peut pas discuter sereinement sous des pressions militaires. Et donc, il faut externaliser en termes géographiques ces discussions pour que les gens puissent parler sans avoir la pression d'un ancien président soutenu par des pays étrangers ou des chefs de clan qui seraient simplement, comme argument électoral, d'avoir des milices importantes. Et donc, la clé, elle est comment sortir ce pays de ce système mortifère, essentiellement clanique, qui est inondé de corruption, chacun le sait. Hein, on sait combien coûte un député somalien. Il faut appeler un chat un chat. On ne peut pas régler le problème si on est dans le déni de la réalité. Et donc, c'est vraiment
en
ce
même temps,
propose.
Ce que vous décrivez ne date pas de M. Farmadio.
Ah non,
même son élection a été très entourée de beaucoup d'étapes. Il y a eu beaucoup de discussions,
beaucoup
de crispations
bien sûr.
Avant d'en arriver là. Mais je voudrais, Monsieur Ismaël, est-ce que vous pensez aussi qu'il n'y a rien à espérer de cette nouvelle étape de dialogue et de discussion que souhaite le président Farmadio afin de trouver un consensus?
En tout cas, la question se pose véritablement parce que Farmadio a quand même réussi le tour de force de se mettre tout le monde à dos. Il reprend le bâton de pèlerin pour faire comme si rien n'avait eu lieu.
Quand vous dites qu'il a réussi à se mettre tout le monde à dos, excusez-moi de vous interrompre, il y a quand même l'Assemblée nationale qui, les députés, ont voté pour cette extension de son mandat. Ça veut dire qu'il a quand même il a soutien, même si finalement le Sénat ne s'est pas prononcé sur ce prolongement.
Oui, je crois que c'est à part le Parlement, toutes les régions somaliennes, même son Premier ministre a désavoué sa position, son option électorale. Donc, ne parlons pas de la communauté internationale qui quand même essaie de faciliter les dialogues. Je crois qu'il n'y a que le Parlement, mais le Parlement c'était au 12 avril. Donc si maintenant on reposait la même question au Parlement, je ne crois pas qu'il aurait gain de cause. En tout cas, maintenant il va se représenter devant le Parlement pour annuler cet accord et pour juste annuler le vote, la prolongation de son mandat et pour repartir sur cet accord du 17 septembre. Dans le même état d'esprit quasiment, à en juger d'après son dernier discours, je crois que s'il n'y a pas encore la pression internationale, la pression des régions, ça va être très très difficile.
Merci.
Parce que c'est lui qui a encore les cartes en main pour diriger, organiser ces processus électoraux.
Merci. Monsieur Giraud, on entend Monsieur Ismaël dit c'est le président Farmadio qui a les cartes en main et en même temps, vous dites, il me semble qu'il est affaibli, il n'a pas de soutien.
Oui, il y a eu sûrement... Bon, comme a dit Monsieur Ismaël, il s'est mis tout le monde à dos. Et donc, cela l'a affaibli. Il a espéré pendant un moment que son coup de force, son coup de théâtre, ou coup de poker, quand vous voulez, politique, pouvait avoir immédiatement faire brèche à l'intérieur de la panoplie de ses ennemis ou de ses adversaires. Ça n'a pas été le cas pour le moment.
Est-ce que son affaiblissement n'est donc pas du coup un avantage pour accélérer le consensus?
Justement, ça c'est une grande question. Je ne pense pas. Je suis d'accord avec M. Beaune, il n'y aura pas de consensus. Il n'y a pas eu avant, pourquoi il y aurait maintenant un consensus? C'est pour ça que d'ailleurs, Farmadio a essayé son coup de poker et probablement il n'a pas réussi. Et donc nous sommes repartis pour une longue, longue négociation. En général, il faut dire mieux parler que se combattre. On a eu, depuis 1992, une longue saison de guerre qui s'est terminée avec et a débouché sur une très longue et fatigante session de pourparlers de différents types. Hein. Alors ça, c'est toujours mieux que la guerre. Donc mieux vaut parler que se faire la guerre entre les différents clans, etc. Mais ça ne débouche pas. Ça ne débouche pas et quelqu'un suspecte que finalement il y a beaucoup surtout des élites des différentes régions qui sont contentes de la situation telle qu'elle est. Ils préfèrent le statu quo et donc une capitale.
Merci.
Où il y a un président très faible mais il y en a d'autres qui voudraient un gouvernement central plus fort.
Merci beaucoup. Un statu quo, en tout cas, qui, j'imagine, n'est pas la solution hein, qui pourrait apaiser le climat politique. Et nous allons voir dans la dernière partie de cette émission quelles concessions peut-être chacune des parties peut faire pour qu'on arrive à une solution politique dans cette crise en Somalie. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Face à la crise politique née de l'extension de 2 ans du mandat du président Farmadjo en Somalie, quelle issue? Et nous en parlons dans votre émission de ce soir avec Philippe Bonne, ancien directeur général des relations internationales, secteur géographique Afrique, et Mario Giraud, ancien ministre délégué des Affaires étrangères et de la coopération, et Abdirachid Mohamed Ismaël, maître de conférence à l'Université de Djibouti et vice-président de l'Institut de recherche indépendant de la Corne de l'Afrique. Il est à Djibouti. Alors, Monsieur Ismaël, vous avez entendu M. Giraud dire que certains préféreraient, semble-t-il, le statu quo. Mais finalement, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des concessions peut-être à faire de part et d'autre pour espérer un rapprochement d'opposition pour que enfin cette élection ait lieu?
Oui, alors ce qu'il faut rappeler, c'est que le changement d'attitude du président Farmadjo a en grande partie été dû à la position, à la défection d'une partie de l'armée, des forces militaires et des forces de l'ordre, et qui a quand même changé la donne. Parce que là, on avait vu les prémices d'un retour en arrière de plus de 20 ans.
La guerre civile.
Donc, ça a été la guerre civile, effectivement. C'était un facteur décisif. Donc, aujourd'hui, tous les intervenants, les différents opposants et même les premiers ministres, etc., tout le monde a plaidé à ce que tous les groupes qu'ils soient de forces de l'ordre ou de forces militaires, retournent dans les casernes. Donc, sans avoir discuté de ce grand problème qu'il y a de réorganiser ou réintégrer des hauts gradés qui ont fait défection. Donc, ce problème va rester déjà en toile de fond. Et il a été demandé par les différents acteurs, ces militaires réintègrent les casernes. Dans ce cas-là, il y aura moins de pression sur le président actuel. Et donc, il peut avoir une marge de manœuvre qui soit un peu plus importante.
Merci.
Maintenant, pour revenir à vous.
Oui. Très rapidement, s'il vous plaît.
Oui. Alors, un point important, les deux points sur lesquels... les discussions vont avoir lieu de façon très intense, c'est la composition de la commission électorale, que les candidats à l'élection souhaitent très fortement, et également, comme j'en avais parlé au début de l'émission, sur la procédure de sélection des représentants des différentes régions.
Merci beaucoup. On l'a compris, hein, le rapport de force, vous l'avez longuement dit sur ce plateau, n'est pas en faveur du président Farmadjo, que la classe politique aura du mal à se mettre d'accord sur le mode de vote, même après ce nouveau round de discussion qui est annoncé. Monsieur Giraud, quel est le mode de scrutin idéal et peut-être susceptible d'apaiser la tension?
Mais tout est là, effectivement. La discussion, surtout, se bloque toujours sur le mode d'élection. Parce qu'il y a un mode d'élection qui donne une grande, disons, espace de manœuvre aux différentes régions et aux différents clans. Donc, une élection indirecte et un mode d'élection directe qui n'a pas encore abouti. Nous sommes en ce moment dans une situation mixte. Alors moi, je n'ai pas une réponse directe à votre question parce que c'est très très compliqué. Il faudrait probablement imaginer un système avec...
Compte tenu de votre connaissance de la Somalie, de la structure de la classe politique et de la réalité de ce qui les divise, on essaye de comprendre.
Oui. Oui, mais c'est difficile de trouver une solution parce que c'est de cela qu'on discute depuis désormais quelques années. C'est de cela qu'on discute. Personne ne veut, ne veut perdre le contrôle du petit pouvoir ou de la parcelle de pouvoir qu'il contrôle avec la fin de l'État unitaire, comme c'était jadis. Donc, une fédération, on sait très bien qu'une fédération, soit mode d'élection, soit institution fédérale, est différente de l'autre. Il y a beaucoup de fédérations dans le monde et il n'y en a pas une qui ressemble à une autre. Donc, il faudra trouver probablement, sûrement, un modèle somalien. Et probablement, il faudra que la Chambre basse soit plutôt pour le suffrage universel, élue au suffrage universel, et une Chambre haute qui, disons, en quelque sorte, avec une forme de droit de veto ou une chose pareille qui soit... ou primerait les régions. Moi, c'est très difficile d'imaginer comment l'équilibre peut être fait. Une chose, je veux ajouter, les jeunes Somaliens sont fatigués de tous ces alchimies des élites et des doyens, parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est un pays qui est totalement privatisé, où il n'y a pas le welfare state, il n'y a rien du tout. Dans ce sens, pour les gens qui n'ont pas de l'argent.
Monsieur Bond, c'est également pour vous la solution. Est-ce que vous la voyez au niveau du mode de scrutin? Et si oui, quel est le mode de scrutin idéal? Quel serait le mode de scrutin idéal?
Alors, monsieur le ministre, monsieur Giraud parle d'or. Je crois qu'il faut trouver un point d'équilibre. Mais il y a une chose qui, pour Abchir Aden Ferro, le candidat que j'ai la chance de représenter ce soir, est extrêmement importante. Pour l'instant, le peuple somalien n'a jamais eu la parole. Parce qu'on parle d'élections. Ce ne sont pas des élections, ce sont des cooptations. Le mode de désignation des députés...
Donc pour vous, un référendum...
Non mais le mode de désignation des députés...
Un référendum populaire sur le mode de scrutin...
La population ne s'exprime pas. La population ne s'exprime jamais. Monsieur Giraud a parfaitement raison. Les jeunes, on voit bien. Pourquoi la campagne d'Abchir fonctionne? Parce que l'essentiel des jeunes sont avec lui. Il suffit d'aller voir sur les réseaux sociaux. L'un des plus grands chanteurs somaliens a fait un rap à la gloire d'Abchir. Il s'est d'ailleurs fait passer à tabac par les sbires de Monsieur Farmadjo juste après. On a eu plus de 3 millions de vues.
Les représentants de candidats n'étant pas sur ce plateau, je veux qu'on reste dans le débat
d'experts. Bien sûr, mais les jeunes ont envie d'exister.
Quelle est la solution face à ce débat crucial sur le mode de scrutin?
Elle va... Oui, je comprends. Moi, je serais dans le sens de M. Giraud.
Donc, vous parlez d'un référendum.
Je pense, comme M. Giraud, que probablement... j'ai pas la vérité, j'ai pas la lumière seule, bien évidemment, mais je pense que l'une des voies serait probablement une chambre élue au suffrage direct et une chambre plus représentative, j'allais dire, sur le mode d'un Sénat, pour assurer les représentations fédérales et les questions de contre-pouvoir. Mais si on reste dans le mode de désignation tel qu'il est aujourd'hui, les mêmes causes produisant les mêmes effets, n'oublions pas que ce pays est toujours sous la menace des Chebabs, des terroristes islamistes, dont on sait qu'ils y mettent de la pression sur ceux qui désignent les électeurs et les députés. Et donc, il faut appeler un chat un chat. Si on veut sortir ce pays de la guerre, il faudra bien que la population puisse s'exprimer.
Merci. Pour terminer, en conclusion, M. Ismaël, vous avez pour cela 40 secondes. La sortie de crise, on le voit, ce n'est pas pour demain.
Enfin, tout dépendra aussi de l'attitude des autres acteurs, que ce soit les acteurs internationaux, régionaux, et je pense particulièrement à l'Union africaine, à l'IGAD, qui sont quand même des acteurs majeurs. Également, bien sûr, les organisations internationales, les pays qui soutiennent le processus. Donc, tout dépendra réellement de leur
implication.
De leur attitude également. Mais ce qu'il nous faut comprendre dans ces grandes crises qui n'arrêtent pas, parce que généralement, le problème qui se pose, c'est que nous n'avons toujours pas compris le fond du problème somalien. nous avons, et pour en 10 secondes, nous avons une construction de l'État qui ne correspond absolument à rien, qui ne correspond absolument pas à l'organisation sociale traditionnelle des Somaliens. Nous avons une société qui est foncièrement tribale, clanique, et sur laquelle on veut construire un État de type un peu occidental.
Et ce qui n'est pas évident. Merci beaucoup. Merci, monsieur.
Ce qui n'est pas évident et qu'il faut répondre.
Merci beaucoup, ouais. Abdirachid Mohamed Ismaël, maître de conférence à l'Université de Djibouti. Vous étiez en ligne de Djibouti. Merci à Mario Giraud, ancien ministre délégué des Affaires étrangères de la coopération, et à Philippe Bonne, ancien directeur général des relations internationales, secteur géographie, Afrique. Bonsoir.